France Inter. Pierre Veille. Le 6-9 du week-end.
Entre Israël et le mouvement Hamas, le cessez-le-feu tient depuis vendredi. Après 11 jours d'affrontements, bilan de ce dialogue des armes, les bombardements israéliens sur l'enclave de Gaza, 248 morts palestiniens, dont 66 enfants, 12 Israéliens tués par les salves de roquettes du Hamas tirées depuis Gaza. Et maintenant, la diplomatie internationale peut-elle empêcher une nouvelle escalade de la violence? Avec Patricia Martin, nous interrogeons deux invités. Frédéric Mettezo, notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, il se trouve à Gaza depuis 48 heures. Il est en ligne avec nous en direct à Gaza. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous, bonjour Pierre.
Bonjour. Et puis en ligne avec nous...
Patricia.
Bonjour.
Et en ligne avec nous, Charles Anderlin, ancien correspondant de France 2 en Israël et dans les territoires palestiniens de 1981 à 2015. Ce conflit, il l'a couvert pendant plus de 50 ans et il le raconte dans son dernier livre paru aux éditions Don Quichotte Seuil. Son titre, De notre correspondant à Jérusalem, le journalisme comme identité. Bonjour Charles.
Bonjour Pierre.
À l'issue de cette guerre, Israël parle de succès exceptionnel. Le chef du Hamas se félicite d'une victoire stratégique. Où est la vérité selon vous, Charles Anderlin?
Mais écoutez, d'aucun des deux côtés, en fait, nous assistons actuellement uniquement à un arrêt des combats. Il faut maintenant négocier, par l'intermédiaire des Égyptiens, un véritable accord de cessez-le-feu et ensuite un second accord vers la reconstruction et un nouveau régime entre Israël, le Gaza et le Hamas. Et ça, c'est encore à faire. Pour l'instant, c'est uniquement l'arrêt des combats, rien de plus. Cela ne veut pas dire qu'un incident ne peut pas tout déclencher à nouveau, donc il faut attendre.
Frédéric Mettezo, les dégâts sont considérables à Gaza à l'issue des bombardements israéliens. Malgré tout, la population a le sentiment d'avoir remporté une victoire?
En tout cas, le Hamas dit qu'il a remporté une victoire et il a voulu matérialiser cela par un défilé, on va appeler ça un défilé militaire, avec des hommes en armes, des jeeps, des pick-up, où on voit des hommes en uniforme vert, kaki, avec des cagoules. Ils ont leurs armes, ils ont leurs lance-roquettes, ils paradent. Et c'est vrai que le Hamas a pu tirer pas loin de 4000 roquettes vers Israël. Il a tiré des roquettes de façon plus rapide, plus intense et plus loin, puisqu'il a pu, par exemple, arroser Tel Aviv, la grande métropole avec ses gratte-ciels et ses plages au nord de Gaza, mais assez haut tout de même. Donc le Hamas, il a réussi à faire peur aux Israéliens. Il n'a pas réussi à réellement saturer le bouclier antimissile, mais le Hamas, il a prouvé, et ce qui est très intéressant, c'est ce que me disent des sources israéliennes, le Hamas a prouvé qu'il n'est plus seulement un groupe terroriste, comme on dit. Le Hamas, c'est une quasi-armée, c'est un proto-État. Un analyste israélien, et j'ai pu le voir sur place, me compare le Hamas à un quasi-État à Gaza, qu'on pourrait comparer au Rojava ou à Daesh en son temps, qui administrait des centaines de kilomètres carrés.
Frédéric, le mouvement Hamas militairement inférieur à Israël. Il le sait, mais alors, que cherche-t-il à obtenir? Parce qu'en tirant des roquettes sur Israël, le Hamas savait que la réponse israélienne serait redoutable, puissante, dévastatrice, disproportionnée. Ça a toujours été le cas dans le passé, lors des trois guerres précédentes entre l'État hébreu et le Hamas à Gaza.
Le Hamas, il a tout à fait intérêt à maintenir cette asymétrie et donc à ne pas devenir complètement un État. Je ne pense pas que les pertes civiles soient un réel problème pour les dirigeants du Hamas. Je ne pense pas que ça leur pose de cas de conscience majeurs. La preuve, quand il y a des victimes, ils parlent de martyrs dans leur vocable. Ça veut dire qu'ils estiment que quelqu'un qui est mort sous les bombes israéliennes, eh bien, a été mort au combat, a été tué au combat. Ensuite, il faut voir la lutte que le Hamas a menée contre Israël comme une lutte contre le Fatah. Le Fatah, c'est le parti de Mahmoud Abbas qui dirige l'autorité palestinienne à Ramallah, en Cisjordanie. Et que cherche le Hamas? Il veut montrer que c'est lui le plus fort parmi les Palestiniens, que c'est lui le vrai résistant, que lui ne coopère pas avec Israël. C'est donc une conquête pour les cœurs et les esprits des Palestiniens.
Charles Anderlin, le mouvement Hamas proclame qu'il veut la destruction de l'État d'Israël. Mais est-ce qu'il y a au sein de ce mouvement islamiste, le Hamas, des dirigeants qui sont quand même prêts à négocier avec Israël ?
Oh, négociation uniquement d'une manière très pragmatique pour obtenir un cessez-le-feu de plus ou moins longue durée, mais fondamentalement, vous l'avez dit, l'objectif du Hamas, c'est lutter contre l'existence de l'État d'Israël en terre d'islam. C'est essentiellement cela. Maintenant, vous savez, le Hamas est une longue évolution. J'ai connu le début du mouvement islamique à Gaza par le cheikh Yassine. Dans les années 70, début des années 80, il y avait encore un cinéma à Gaza et dans les cafés, on pouvait encore boire de la bière. Progressivement, le Hamas, le mouvement islamique, a pris le contrôle de toutes les mosquées de Gaza et les Israéliens, d'ailleurs, l'ont absolument favorisé. Vous savez, l'immeuble des Frères musulmans à Gaza a été construit avec l'aide de l'armée israélienne à Gaza. Et ce n'est qu'en 88, avec la première intifada, le premier soulèvement palestinien, que tout à coup, les Israéliens qui jusque-là bichonnaient le mouvement islamique contre le Fatah, contre les pragmatiques du Fatah, que tout à coup est né le mouvement Hamas, la branche militaire, la branche terroriste du Hamas.
Frédéric Mettezeau, vous parliez tout à l'heure de compétition entre le Hamas et le Fatah pour avoir le leadership en Palestine, mais d'abord, les idéologies sont pas forcément les mêmes. Géographiquement, ce sont pas forcément les mêmes zones non plus. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, que pense l'opinion publique du Hamas ? Parce que il y a des Palestiniens modérés. Ils sont pas tous des terroristes.
C'est assez compliqué de faire parler une opinion publique à Gaza.
Ouais, c'est vrai. Oui.
Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que le Hamas a mis sur la table la question de Jérusalem Est, qui est occupée par Israël, de l'esplanade des mosquées. Et donc, le Hamas, pour essayer de gagner cette opinion publique israélienne, palestinienne, excusez-moi pour ce lapsus, pour gagner l'opinion publique palestinienne, le Hamas a dit « Nous sommes les champions de Jérusalem ». Et il y a une chose, peut-être, que ce conflit a révélé, c'est non pas une union sacrée palestinienne derrière le Hamas. Je pense pas que le Hamas devienne fondamentalement plus populaire et devienne le parti politique préféré des Palestiniens de nationalité israélienne, des Palestiniens de Cisjordanie, voire des Palestiniens de Gaza. Mais tout de même, on a vu depuis 12 jours des Palestiniens géographiquement éclatés et même au Liban ou en Jordanie qui disaient « Nous sommes Palestiniens et nous sommes tous tournés vers Jérusalem ». Il y a quand même eu une espèce d'union des Palestiniens maintenant. C'est clair que le Hamas n'a pas pu conquérir la Cisjordanie, ni même à l'occasion des manifestations. Hein. C'est très bien tenu par l'autorité palestinienne, aidée par les services israéliens. Les Palestiniens d'Israël, ce qu'on appelle les Arabes israéliens, qui ont donc un passeport israélien, ils n'ont pas brandi le drapeau du Hamas et ils ne veulent pas pour autant d'un parti Hamas qui les dirige.
On a assisté à cette quatrième guerre entre Israël et le mouvement Hamas. Charles Anderlin, certains analystes en Israël d'ailleurs disent qu'il y a une convergence d'intérêts entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le mouvement islamiste Hamas. Qu'en pensez-vous ? Cette tension, ils la souhaitent tous les deux.
Ben écoutez, depuis une dizaine d'années, régulièrement, tous les mois, un avion privé arrivait à l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv, du Qatar. Un émissaire sortait avec des valises de billets, la police israélienne l'escortait et des sommes très importantes étaient remises au Hamas à Gaza. D'ailleurs, le grand titre aujourd'hui du quotidien Yediot Ahronot, une des demandes, une des exigences du chef d'état-major israélien, c'est que l'argent du Qatar ne soit plus versé au Hamas. En fait, effectivement, Benjamin Netanyahou a conclu régulièrement des accords militaires avec le Hamas, accords permettant les transferts de biens à Gaza et puis surtout permettant un certain calme entre les différentes guerres, donc des accords militaires, mais cela était essentiellement destiné à affaiblir l'autorité autonome de Mahmoud Abbas à Ramallah, parce que ce qui intéresse le gouvernement de M. Netanyahou, c'est de pouvoir poursuivre la colonisation, le développement des implantations sur 60% de la Cisjordanie. Donc, des accords militaires avec le Hamas, pas d'accord politique avec l'autorité autonome. C'était ça la politique de Benjamin Netanyahou, que, si j'ai bien compris, le président Joe Biden voudrait bien changer tout cela.
Patricia ?
Oui, on va revenir à Joe Biden parce que c'est très intéressant. Si, mais sur le plan symbolique, Frédéric Mettezo, Jérusalem, ça a toujours été le point sensible du conflit. C'est-à-dire que stratégiquement, c'est toujours là que ça se déclenche.
Ben oui, Jérusalem, vous avez d'abord une guerre territoriale. C'était le quartier de Sheikh Jarrah où des familles palestiniennes habitent. Donc on est à l'est de Jérusalem. Eh bien, depuis un mois, il y a des manifestations qui ont tourné à l'émeute parce que des familles palestiniennes sont menacées d'expulsion. On attend la décision de la Cour suprême israélienne. Et à la place, ce sont des colons israéliens qui veulent s'installer. Donc là, on est vraiment sur une volonté de colonisation également, au même titre qu'en Cisjordanie. C'est donc un enjeu de territoire. Il y a également un enjeu politique, puisque Jérusalem-Est est revendiqué par les Palestiniens comme la capitale de leur futur État, si un jour cet État voit le jour. Et puis, on a une troisième dimension, c'est la dimension religieuse. Cette esplanade des mosquées, selon la terminologie des musulmans, mont du Temple, selon les juifs, c'est ce très grand parvis au-dessus du mur des Lamentations. Il y a la mosquée Al-Aqsa, et il y a le Dôme d'Omar, eh bien, c'est le troisième lieu saint de l'islam qui surplombe le premier lieu saint du judaïsme. Donc, passez-moi l'expression, c'est un cocktail explosif et il suffit juste d'une étincelle. L'étincelle, ça a été un comportement assez, voire très maladroit de la police israélienne pendant le Ramadan. Ça a été une intervention de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa à coups de grenade lacrymogène. Mmh. Et en face, évidemment, ça a provoqué un gigantesque soulèvement. C'était déjà la même chose il y a 20 ans, quand Ariel Sharon s'était rendu sur les lieux. Pierre et Charlie était.
Absolument. Et maintenant, comment éviter une cinquième guerre à Gaza? Joe Biden a dit vendredi que la seule solution possible, c'est deux États, Israël et un État palestinien. Charles Anderlin, est-ce que Joe Biden peut imposer cette solution avec Benjamin Netanyahou au pouvoir?
Mais écoutez, il faut moins l'espérer. En tout cas, Benjamin Netanyahou, au pouvoir, est à la tête d'un gouvernement de transition qui expédie les affaires courantes. Vous savez, on va probablement avoir une cinquième élection, la cinquième en un peu plus de deux ans, à la rentrée en septembre. Pour l'instant, donc, Netanyahou reste là, mais sans avoir la légitimité d'une coalition gouvernementale régulièrement élue par la Knesset. Donc je crois que le problème pour les Américains, en attendant la stabilisation de la politique israélienne, le problème est essentiellement palestinien. Il faudrait réformer l'autorité autonome, expliquer à Mahmoud Abbas, l'octogénaire président palestinien, qu'il serait peut-être temps qu'il prenne sa retraite, et puis refaire les choses. Vous savez, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, arrive ce mercredi. Il pourrait faire des gestes. Un de ces gestes importants auxquels il faudra faire attention, est-ce qu'il va rouvrir le consulat des États-Unis à Jérusalem-Est, en laissant entendre que ce sera un jour la future ambassade des États-Unis dans la partie orientale de Jérusalem, capitale de l'État palestinien. Écoutez, peut-être, en tout cas, la balle est dans le camp américain, mais je crois que leur priorité sera avant tout palestinienne.
Charles, vous connaissez bien ce conflit, vous racontez votre travail de correspondant à Jérusalem pendant près de 50 ans dans ce livre de notre correspondant à Jérusalem aux éditions Don Quichotte Le Seuil. Pour que cette solution à deux États dont on parle depuis tant d'années existe, quelles seraient selon vous les concessions indispensables que chaque partie, les Israéliens, les Palestiniens, devraient faire, en quelques mots?
Ben écoutez, c'est très simple, renoncer à la colonisation, établir des relations, un État palestinien indépendant, démocratique, démilitarisé aux côtés d'Israël, c'est la seule solution possible. Vous savez, en 2003, des modérés des deux camps, israéliens et palestiniens, des personnalités de premier plan, ont établi un projet alternatif d'accord où tout était réglé, tout existe, tout est là, le partage de Jérusalem, le problème des réfugiés palestiniens, comment tout cela est réglé. Cette solution, il faut la remettre sur le tapis parce que c'est la seule issue possible. Sans cela, on ira à nouveau vers des conflits, des guerres et encore plus de morts.
La différence, Frédéric Mettezo, c'est qu'à l'heure actuelle, et déjà depuis un moment, on n'entend pas les modérés, on n'entend que les extrémistes.
Oui, le débat, il est complètement clivé. D'abord parce que côté palestinien, on a, comme le disait Charles Anderlin, ce vieux président Abou Mazen, Mahmoud Abbas, plus de 85 ans, avec quand même une corruption, avec quand même une difficulté pour les libertés d'expression journalistique, syndicale, politique. Donc ça ne favorise pas l'émergence ou en tout cas l'entente d'un camp modéré. En Israël, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous trouvez plus ce qu'on appelle le camp de la paix dans des initiatives syndicales, dans des ONG, sur le terrain, mais vous l'entendez beaucoup plus difficilement au niveau politique, ou quand même Israël est un pays qui s'est droitisé sous les années Netanyahou, avec aussi la montée très forte de la religion et d'une revendication quasi messianique de la part de certains milieux juifs. Donc non, c'est difficile parce que il y a une espèce d'endormissement, mais finalement peut-être que chacun y a intérêt. Benjamin Netanyahou, il est jugé pour corruption, mais bon, il reste au pouvoir. Mahmoud Abbas, il reste au pouvoir. Le Gaza, il reste au pouvoir. Et si on élargit un tout petit peu, le Hezbollah au nord, il est toujours dans sa zone autonome du Liban sud. Rien ne bouge, rien ne change. Chacun campe sur ses positions et c'est difficile d'entendre des voix alternatives qui sont généralement en Palestine traitées de collabos et en Israël traitées de gauchistes.
Charles Anderlin, en quelques mots, certains disent que ce conflit est insoluble. Qu'en pensez-vous ?
Je crois qu'il faut tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Il faut encourager les modérés qui, Frédéric Mettezo vient de l'expliquer, n'ont plus voix au chapitre. Cela dit, il y a encore eu des manifestations de la gauche israélienne, de Palestiniens, d'Arabes israéliens, hier soir à Tel Aviv et à Jérusalem. Donc il y a une véritable opposition pour l'instant. Au Parlement israélien, elle est très faible, mais elle est là, elle est dans la rue.
Frédéric Mettezo à Gaza et Charles Anderlin à Jérusalem, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France Inter.